Demandons à l'Esprit Saint aujourd'hui de nous aider à entrer plus avant dans l'exigence propre de Jésus sur Jean. Parmi les 12, Jean a un rôle très particulier. Il y a une petite phrase, n'est-ce pas, que nous devons beaucoup aimer. C'est tout à fait à la fin de l'évangile de Saint Jean. Quand Pierre s'inquiète sur Jean, et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Jésus vient de choisir Pierre. Il vient de lui donner cette autorité si importante sur l'Église. C'est paître mes brebis. On comprend très bien comment Pierre, voyant Jean à côté de lui, se pose la question. Pierre connaît le cœur du Christ. Et Pierre connaît combien Jean est lié au cœur de Jésus. Pierre sait très bien ce qui s'est passé à la scène. Il sait très bien qu'il y a un lien de tendresse, d'amour, de prédilection, très unique, entre le cœur de Jésus et le cœur de Jean. Pierre n'est pas jaloux. Il est trop généreux, Pierre, pour être jaloux. Parce que Pierre, c'est la générosité. Et c'est la grande générosité, Pierre. Et Pierre se demande, lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Et Jésus fait comprendre à Pierre, d'une manière mystérieuse, ce que c'est le premier exercice de l'autorité de Pierre. On comprend très bien. Nous aurions été à la place de Pierre, je crois que nous aurions demandé la même question à Jésus. Comment exercer l'autorité sur Jean? Comment exercer cette autorité? Ça fait partie des brebis du Christ, et Jean est une brebis du Christ très spéciale, très particulière. Et puis Pierre sait très bien ce qui s'est passé à la croix, que Marie est remise à Pierre, que Marie est remise à Jean. Pierre le sait, cela. Voilà ta mère. Comment exercer l'autorité sur Marie? En passant par Jean. Elle est la brebis la plus aimée. Et Jésus n'exclut personne. Ce n'est pas être mes brebis, mais toutes mes brebis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cela? Alors l'inquiétude de Pierre, une inquiétude d'amour du reste, c'est pas du tout un désir d'exercer son autorité sur ceux qui, dans son cœur, passent devant lui. Il le sait bien. Alors, la réponse de Jésus, ne t'inquiète pas, si tu veux, il demeure jusqu'à mon retour. Toi, suis-moi. Une parole que les pères de l'Église ont toujours mis en lumière. Il y a là un grand mystère sur Jean. Et je crois que ça doit être un peu le mystère que nous devons vivre. Jésus désire que l'esprit de Jean demeure jusqu'au bout. C'est cela que Jésus indique. Ce n'est pas la manière dont on l'a interprété, puisque Jean indique une manière fausse de l'interprétation. Beaucoup crurent que Jean ne devait pas mourir jusqu'au retour du Christ. Et si le pauvre vieux Jean restait encore vivant, ne pas mourir. C'est possible, Mathusalem a bien vécu, hein. Alors il aurait pu avoir le super Mathusalem, mais qui resterait vivant et qui ne mourrait pas, ça n'aurait rien du tout d'impossible, et qu'on irait faire un petit pèlerinage à Patmos pour voir Jean. Alors là, on irait tous, hein, immédiatement, si Jean... Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Ça, c'est matériel. Hein. C'est notre manière très humaine de concevoir les paroles de Jésus. C'est même très intéressant de voir cette manière très humaine et que Jésus, que l'Esprit Saint récule, ça c'est bien évident. C'est l'Esprit de Jean. Et je crois que c'est cela que nous devons demander. Alors l'Esprit de Jean n'est-il pas pour nous l'Esprit d'Élie? N'est-il pas celui qui doit préparer le retour du Christ? Il y a Jean Baptiste et l'autre Jean. Il y a les deux Jean, nous savons bien. Et Jean Baptiste, il était avant l'autre Jean. Jean était le disciple de Jean Baptiste. Un disciple très aimé. Jésus a fait le rapt. Étonnant. Et Jean-Baptiste a tout accepté. Il a offert son disciple bien-aimé pour qu'il devienne le disciple bien-aimé de Jésus. Il lui a donné ce disciple qu'il aimait. Et Jean, à la croix, est devenu témoin au moment du coup de l'homme. Il est devenu un témoin privilégié. Aucun autre apôtre n'a ce privilège d'avoir été témoin du coup de l'ange, d'avoir été témoin de la croix. Il a reçu Marie pour cela. Il a reçu Marie pour pouvoir entrer dans ce mystère de la blessure du cœur du Christ. Et là, il est devenu témoin. Là, il dépasse son maître. Hein. Jean-Baptiste, dans le désert, est le témoin de l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Jean, le disciple bien-aimé, à la croix, dans le désert de la croix, il est le témoin de la blessure du cœur de l'agneau. Il y a comme un abîme entre les deux, hein, la promesse et la réalisation. Et la réalisation qui va beaucoup plus loin que ce qui avait été annoncé prophétiquement. L'agneau qui porte l'iniquité du monde, c'est Jésus sur la croix. Et il y a eu en plus le coup de langue, la surabondance du coup de langue. Et c'est très curieux que Jean ne dise pas qu'il est témoin au moment de la croix. Il est témoin du coup de langue. Il y a là quand même quelque chose, je crois, de très important à souligner. C'est son mystère, cela. C'est le mystère propre de Jean, d'avoir été témoin du coup de langue. C'est pour ça qu'il fallait qu'il Marie. Il fallait que Marie le porte dans son cœur. Il fallait que Marie l'engendre à une vie divine plus profonde, plus contemplative, pour que Jean puisse être l'apôtre du coup de langue, pour que Jean soit ce témoin. Et c'est sans doute cela qui éclaire, voyez la phrase de Jésus. Il faut que Jean demeure jusqu'à la fin. Il faut que l'esprit de Jean, si vraiment être témoin du coup de langue, c'est ce qui caractérise la sainteté de Jean. Et je crois qu'on peut le dire. C'est vraiment cela qui caractérise la sainteté de Jean, c'est d'avoir été témoin du coup de langue. C'est lui qui nous transmet cela. Et il le dit du reste. Il a été témoin, c'est pour nous transmettre cela. Et si Jésus, de son côté, à la fin, après la résurrection, nous fait comprendre que son désir est simplement évoqué, c'est comme un souhait du cœur de Jésus, et s'il me plaît, je lui demeure jusqu'à mon retour. Toi, suis-moi. C'est curieux. Alors, est-ce que ce n'est pas cela que nous devons essayer de regarder et de contempler? L'esprit de Jean, c'est d'être témoin de la blessure du cœur de l'agneau. Et cet esprit de Jean, Jésus souhaite qu'il demeure jusqu'à son retour. Et que plus nous serons proches du retour du Christ, plus Jésus veut que cet esprit de Jean demeure. Que représente ce témoignage de Jean à l'égard de la blessure du cœur? Qu'est-ce que ça représente au point de vue théologique, au point de vue de la vie de l'Église? La blessure du cœur, vous le savez, c'est lié au Christ, soif du Christ, je crois que nous pouvons le dire, parce que des deux côtés, nous sommes en présence d'une surabondance. Nous sommes en présence de ce qui n'est plus de l'ordre de la nécessité de justice. Nous sommes en présence d'une nécessité d'amour qui est une surabondance, qui est toujours un dépassement. Jésus a réalisé en plénitude la volonté du Père, et même plus que la volonté du Père. C'est par obéissance qu'il meurt. L'obéissance est liée à la mort, hein, faut jamais l'oublier, et à la mort de la croix. Ce côté si particulier d'obéissance chrétienne. On ne peut pas être uni au mystère de la croix du Christ sans cette obéissance. Dieu a voulu lier l'obéissance et l'holocauste. Nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il y a la petite opposition que les prophètes font entre les sacrifices et l'obéissance, un cœur contrit. Parce que l'obéissance nous donne un cœur contrit. Tant que nous n'avons pas obéi, nous n'avons pas un cœur contrit. Tandis que quand nous obéissons, nous avons un cœur contrit parce que nous avons un cœur qui est complètement offert. Mais dans l'Ancien Testament, ne l'oublions pas, le sacrifice, c'est celui des taureaux et des boucs. C'est un sacrifice très extérieur. Quand il s'agit du sacrifice de Christ, c'est un sacrifice tout intérieur. Et c'est pour ça que c'est un sacrifice qui se réalise dans l'obéissance, qui se réalise dans la plénitude de l'amour, et se concrétise dans l'obéissance. Et il se manifeste à travers l'Holocauste. Et c'est pour cela que le mystère de l'Holocauste, du sacrifice, est assumé par l'obéissance. C'est par l'obéissance que nous rejoignons le sacrifice du Christ. Il n'y a pas d'autre voie. C'est l'unique voie. C'est par l'obéissance que rejoint le sacrifice du Christ. Et si nous mettons la croix du Christ au cœur de notre vie, c'est par l'obéissance que nous la mettons. Et ça dépend de nous, de chacun d'entre nous, dans la mesure où nous voulons aller jusqu'au bout de l'obéissance. Il y a un dépassement de l'obéissance, le premier dépassement de l'obéissance. Vous savez bien, quand on obéit, on acquiert une nouvelle liberté, tout intérieure. Aucune liberté extérieure quand on obéit pour exécuter un ordre. Mais il y a une nouvelle liberté intérieure. Parce qu'on s'unit à celui qui nous a demandé de réaliser cela. On est un avec lui. Il dit, qui me voit, voit le Père. Au moment où Jésus obéit à la croix, où en le regardant, nous voyons le Père. Le Père est présent dans l'obéissance de son Fils. une présence silencieuse du Père, mais une présence du Père. Parce que Jésus, en obéissant, se lie entièrement au Père pour n'être qu'un avec le Père. Et à partir de cette obéissance, à partir de cette œuvre commune que Jésus réalise avec le Père, il y a un fruit intérieur d'un nouvel amour, d'une nouvelle liberté d'amour. Et cette nouvelle liberté d'amour permet à Jésus de nous donner sa mère, de donner à Jean sa mère. Femme, voilà ton fils. C'est une initiative de Jésus. Initiative d'amour à partir de l'obéissance. Et c'est vraiment une initiative tout intérieure, parce que ce sont les liens profonds que l'Esprit Saint a tissés entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Ce sont ces liens-là qui sont donnés à Jean. C'est donc en premier lieu un mystère d'intériorité, au-delà de la hiérarchie. Marie est toujours au-delà de la hiérarchie. C'est pour ça qu'elle peut être le refuge des pécheurs. Elle peut être le refuge de ceux qui sont rejetés de la hiérarchie visible de l'Église. Elle peut les prendre au plus intime de son cœur. Il ne faut jamais l'oublier, cela, pour nous et surtout pour ceux que nous voyons qui sont dans des situations difficiles et qui ne peuvent plus être quelquefois dans l'Église visible. Il faut qu'ils soient dans le cœur de Marie. Il faut qu'ils soient cachés dans le cœur de Marie. Ici, c'est très important, c'est même capital de comprendre cela. C'est dans une initiative d'amour que Jésus donne Marie à Jean et donne Jean à Marie. Cette initiative très intérieure qui nous fait découvrir dans le cœur de Jean cette connaturalité profonde que la grâce de la croix, que l'obéissance de la croix réalise dans le cœur de Jean. Cette connaturalité entre le cœur de Jean et le cœur de Marie, cette connaturalité divine. Jean devient le petit enfant bien-aimé de Marie. Et Marie le prend au plus intime de son cœur. C'est Marie qui l'a aimé le premier. C'est à Marie que Jésus a donné l'ordre en premier lieu. Parce que c'est Marie qui l'aime en premier lieu. Il ne faut jamais l'oublier. Marie nous aime plus que nous l'aimons. C'est pour ça qu'on ne peut jamais douter de l'amour de Marie sur nous. Parce qu'elle nous aime plus. Il y a de la part de Marie une générosité unique par rapport à chacun d'entre nous. Elle nous adopte. Elle a adopté Jean. Elle l'a pris au plus intime de son cœur. Tout ce que Jésus a capté du cœur de Marie est donné à Jean. Pour que Jean puisse être intimement lié au cœur de Marie. Et après avoir réalisé ce don dernier, le don de tous les secrets de son cœur, je crois que c'est bien cela que Jésus réalise en donnant Marie. C'est le Père qui avait donné Marie à Jésus. Et Jésus est le grand secret du cœur de Marie. Et Marie est le secret du cœur de Jésus. Et ce secret, il est donné, il est partagé avec Jean. Il est communiqué à Jean. Et Jean le reçoit comme l'ultime marque d'amour de Jésus pour lui. Et c'est grâce à ce lien nouveau que Jean peut être témoin du coup de l'ange. Et je crois que nous pouvons dire que c'est grâce à l'Eucharistie que Marie peut être debout au pied de la croix. C'est grâce à l'Eucharistie que Jean peut être debout au pied de la croix et vivre l'obéissance de Jésus. Et en vivant l'obéissance du Christ, il reçoit cette récompense merveilleuse du don de sa mère. Ayant reçu le don de sa mère, il peut être témoin du coup de l'ange. Il peut être témoin du cri de Jésus, j'ai soif, et du coup de l'ange. Il y a comme un double aspect, vous voyez, mystère de l'Eucharistie, mystère de Marie qui se retrouve, et qui se retrouve toujours. Et le mystère de l'Eucharistie permet l'obéissance de la croix, de communier à l'obéissance de la croix. Et c'est cela qui réalise en nous le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie permet de communier à l'obéissance de la croix, d'être debout et de vivre par le fait même en communion intime avec Jésus crucifié. Et le don de Marie, c'est le don des secrets du cœur, permet d'être témoin du coup de l'ange et témoin du cri de l'enfant dans le désert. J'ai soif. Le cri de soif du Christ, c'est une nouvelle initiative, exprime comment au-delà de la croix, qui est l'œuvre par excellence du sacerdoce du Christ, qui est l'œuvre d'amour et de justice du sacerdoce du Christ, qui est la plus grande œuvre qui s'est réalisée sur la terre. Au-delà de cette œuvre, il y a l'exigence de l'amour. Il y a cet abîme d'amour. J'ai soif. Il faut demander à Marie, il faut demander à Jean, aujourd'hui, de nous donner cette grâce, de recevoir au plus intime de notre cœur le Christ-soif de Jésus. C'est cela que Marie nous réserve comme grâce, de saisir, à partir du cri de soif du Christ, saisir cet abîme d'amour qui est dans son cœur. C'est par cette soif du cœur de Jésus que nous découvrons qu'il est source de tout amour et qu'il y a en lui cette plénitude d'amour et que l'œuvre de la croix, si grande qu'elle soit, n'est pas adéquate. Le sacerdoce du Christ n'est pas adéquat à la croix. C'est quelque chose de plus. C'est un sacerdoce d'amour. Et je dirais pour cela que le sacerdoce du Christ sera pour nous source, instrumental, mais source du don de l'Esprit Saint. Mais avant d'être source du don de l'Esprit Saint, il faut découvrir cet abîme d'amour
C'est dans le cœur de Jésus, qui est exprimé par le Christ soi, que Marie a reçu dans son cœur, que Jean a reçu dans son cœur. Jean a communié à ce Christ soi comme Marie. Et ce Christ soi lui a permis d'entrer dans une nouvelle unité d'amour avec Jésus. Ce Christ-soif a été pour le cœur de Marie et le cœur de Jean un nouvel appel à l'amour. Quand Jésus se fait le mendiant de l'amour, Jésus nous donne la grâce de répondre à son amour, à son appel. Et ce fait le mendiant du Père, le mendiant de Marie, le mendiant de Jean, et le mendiant de notre cœur. Il réclame de nous un amour pur, un amour qui brûle tout, un amour qui soit au-delà de toutes les œuvres. Et c'est cela qui caractérise l'esprit de Jean. C'est cela qui caractérise l'esprit contemplatif. C'est cela qui caractérise les enfants du cœur douloureux et immaculé de Marie. C'est de vivre de cette soif du Christ crucifié. Et de comprendre que cette soif du Christ crucifié dépasse tout, exige de nous un don total. Enfin, une demi-mesure, c'est pas une heure. Une heure, c'est toujours quelque chose de particulier. Il faut le faire, c'est bien évident. On doit être des apôtres. Et donc, on doit réaliser pleinement la mission que Jésus nous demande. Mais il faut que cette mission soit vécue de l'intérieur, et qu'elle soit vécue à partir et dans ce qu'il soit. Et c'est là où nous devons tout le temps revenir. Et ce Christ soif va se manifester, va devenir sensible par la blessure du cœur. La blessure du cœur nous fait comprendre cet appel silencieux, mais très fort, parce que c'est un geste, c'est le dernier geste, c'est le geste par excellence. Et le geste, je ne dis pas qu'il est adéquat à l'amour, il est plus adéquat à l'amour du cœur de Jésus que le Christ soit. Il y a l'appel, et puis il y a le geste. Et c'est bien comme au moment de la création, que la parole, que la lumière soit, la lumière fut, et qu'il y a le geste de Jésus qui forme le corps de l'homme, qui forme le corps de la femme. Et c'est d'abord la parole, puis le geste dans l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est la parole et le geste. Et on comprend très bien que le geste termine parce que ce geste a quelque chose d'absolu. C'est le geste qui se réalise à partir du cadavre. C'est le geste qui se réalise à partir du cœur qui cesse de battre. Du cœur qui ne vit plus et qui est toujours le cœur d'un Dieu. Et qui ne vit plus pour connaître cette passivité absolue. Et c'est cette passivité la plus absolue qui soit que nous voyons à travers la blessure du cœur. Le cœur du Christ blessé. Cette blessure, elle n'est pas dans l'ordre, si vous voulez, comprenons bien, dans l'ordre de l'obéissance. c'est la gratuité pure. Le soldat qui a donné le coup de lance n'était pas en service commandé. Il a donné ce coup de lance en raison même de sa stupéfaction que Jésus était déjà mort. Normalement, il n'aurait pas dû être déjà mort. Alors il a donné le coup de lance. Il a donné le coup de lance pour nous. Dieu a permis cette dernière humiliation pour que nous comprenions mieux l'amour du cœur de Jésus, pour que nous soit révélé ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a d'ultime dans le cœur de Jésus, que nous allions plus loin dans la découverte de son amour. Ce coup de lance a été donné gratuitement. Et ce coup de lance est la seule blessure mortelle. Et ce coup de lance veut nous manifester, nous faire comprendre cet appel de Jésus. Après, il est tout à faire. Il a tout donné, il a remis son esprit entre les mains du Père. Il a dit que tout était consommé, et pourtant il y a encore quelque chose. Et pour que nous comprenions l'importance de ce coup de lance, Jean dit qu'il est témoin, et que son témoignage est vrai, que son témoignage, nous devons le recevoir, nous devons donc en vivre. Et que ce témoignage est là pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas passer en oubliant. Je ne dis pas que les autres évangélistes ont oublié. Le Saint-Esprit a voulu que c'est oubli. C'est vrai. Marc, Matthieu, Luc ne disent pas. Il y a un oubli. Voulu par Dieu. Et comme ça, des choses qui sont voulues par Dieu sont des oublis. On n'a pas à les juger de l'extérieur. Il faut les comprendre de l'intérieur. Pourquoi cet oubli ? C'est pour que nous comprenions mieux ce qu'il y a de tout à fait particulier dans l'attitude de Jean. Je dirais que c'est l'ombre qui met en pleine lumière ce que Jean doit être pour Jésus. Il fallait qu'il soit fidèle jusqu'à la croix. Il fallait qu'il vive le mystère de la croix avec Marie, qu'il reçoive Marie, qu'il entende l'appel de Jésus, j'ai soif, qu'il soit celui qui est témoin du dernier moment de la vie du Christ, pour être témoin du coup de lance, et pour pouvoir nous le communiquer comme un grand secret, comme quelque chose de tout à fait dernier. Toute la révélation s'achève par le coup de lance. On peut le dire, ça. Après, Jésus est remis dans ses titres. Toute la révélation se termine par le coup de lance, ce qui nous fait comprendre que c'est à travers le coup de lance que nous devons comprendre tout le mystère de la croix, tout le mystère de la vie apostolique de Jésus. Et saint Augustin nous dit que toute la vie apostolique de Jésus doit se comprendre à partir de la croix. Je crois que nous pouvons ajouter, dans la lumière de l'évangile de saint Jean, que c'est à partir de la blessure du cœur de Jésus, c'est l'ultime révélation, que la lumière soit et la lumière fut, et puis le coup de lance, première et dernière révélation. la lumière et l'amour. Et l'amour qui se fait à travers le cadavre, pour que nous comprenions mieux ce que représente cet amour du Fils à l'égard du Père, pour que nous comprenions mieux cette alliance du bien-aimé, l'agapétos, le bien-aimé, à l'égard de son Père bien-aimé. L'alliance dans l'amour, pour que nous comprenions mieux le silence du Père à travers la blessure du cœur de son Fils. L'ultime révélation qui est le point de départ du don de l'Esprit Saint. Je crois que nous pouvons aussi dire cela, que c'est à partir de la blessure du cœur de Jésus que l'Esprit nous est donné. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'eau, le sang et l'Esprit. Et c'est Jean qui fait le lien. Et donc il nous fait comprendre que le coup de langue qui nous révèle l'eau dans le sang, qui nous révèle le mystère de Marie dans le sang de Jésus, qui nous révèle le mystère de l'Immaculée Conception dans le sang de Jésus, comme la grande victoire du sang du Christ, nous révèle comment l'Esprit nous est donné à ce moment-là, comment l'Esprit est donné à Marie, comment l'Esprit nous est donné, comment nous devons, à travers la blessure du cœur de Jésus, saisir que toute parole divine est une parole qui spire l'amour, conduit à l'amour. Toute parole conduit à la croix, toute parole conduit à la blessure du cœur, et par la blessure du cœur, l'Esprit Saint nous est donné. Toute parole divine doit nous donner l'Esprit Saint. Il doit nous donner l'Esprit Saint à travers la blessure du cœur de l'agneau et dans la blessure du cœur de l'agneau. Ceci doit être ce qu'il y a de plus secret dans toute notre vie d'oraison, dans toute notre vie contemplative. Je crois que c'est cela que Jean veut que nous vivions pour l'Église d'aujourd'hui. En premier lieu, et Jean, c'est le témoin dernier qui nous est montré dans l'Apocalypse. C'est le témoin dernier. Il est revêtu de l'esprit d'Élie et il est ce témoin. Il est ce témoin du cœur blessé de l'agneau. Et il doit nous faire vivre cette surabondance, ce dépassement dans l'amour de ce que représente l'œuvre de la croix. Que nous entrions dans un amour absolument gratuit. Pour que nous comprenions cette gratuité de l'amour au-delà de toutes les œuvres. Et qu'il soit cette flamme brûlante d'amour qui vient du cœur blessé de l'agneau, l'Esprit Saint, et qui nous unit au cœur de Marie, qui nous unit au Père.